La localisation de l'amygdale. Donc c'est ici. On l'a déjà vu plusieurs fois, l'amygdale. Vous vous souvenez qu'elle était tout à fait à la pointe du noyau caudé. Que je le retrouve celui-là. Voilà, par exemple ici. On ne voit pas bien. Voilà, vous vous souvenez que vous aviez le noyau coudé qui se termine ici par l'amygdale. Ça va, il part de là, il passe et il se termine au niveau de l'amygdale. D'accord ? Mais aussi, on a vu ce matin que l'amygdale était située juste à côté de l'hippocampe. Et si vous regardez le schéma ou un des schémas de ce matin, c'est toujours dans le lobe temporal interne, l'amygdale est là et l'hippocampe est là. Et sur le schéma là en dessous, tout en bas, amygdale-hippocampe, vous voyez qu'il y a des liens dans les deux sens et plein. Ils sont situés juste l'un à côté de l'autre. L'un, c'est la mémoire déclarative et l'autre, c'est la mémoire émotionnelle, le conditionnement émotionnel. Les deux sont liés. Ça va ?
Et, mais donc, en fait, l'amygdale, elle est aussi bilatérale.
Oui, oui, bien sûr.
Pourquoi est-ce que j'ai retenu que
l'amygdale... Mais non, je vais vous montrer où elle se trouve dans une coupe comme ça du cerveau.
C'est toi qui m'as envoyé.
C'est moi qui t'ai envoyé.
Non, c'est...
Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Donc, vous avez troisième ventricule, le thalamus, l'hypothalamus, les ganglions de la base. Et ceci, si vous regardez, ce c'est le cortex, puis vous avez ce renfoncement avec le lobe de l'insula dont je vous ai parlé, et puis le cortex temporal. Et vous voyez que vous avez ici, dans le cortex temporal, l'amygdale. Mais ça, c'est si je fais... Voilà. Peut-être comme ça. Si je fais ma coupe là. Si je fais ma coupe là, eh bien, qu'est-ce que j'ai ? J'aurai l'amygdale et j'aurai d'autres structures. Ça va ? Je la fais là. Mais non, si je faisais ma coupe un tout petit peu plus en arrière, là, ben je n'aurais plus l'amygdale dans le lobe temporal, mais j'aurai l'hippocampe. Ça va ? Etc.
Donc l'amygdale vient plus en avant.
L'amygdale est dans la partie vraiment tout antérieure du lobe temporal interne. Ça va ? Pourquoi lobe temporal interne ? Si vous regardez le lobe temporal qui fait tout ça, vous voyez bien que ça c'est l'extérieur, ça c'est l'intérieur. Et donc l'amygdale est du côté du lobe temporal interne. Ça va ça ? Ok.
Dominique ?
Oui.
Est-ce que c'est là ? Se trouve notamment les choses qu'on a enfouies. Je pensais à ça à cause de ce que tu disais tout à l'heure dans le podcast avec le plaisir, la punition, etc. Ici, tu associes un événement, par exemple, quelque chose de très douloureux. Est-ce que, et que tu enfouis le truc. Où est-ce que ça se passe ?
Là-dedans, dans le système limbique. Tu sais, en One Brain, on parlait. T'as fait One Brain, toi ? Non. Parce qu'en One Brain, on parle de la CAT, l'ère de la pensée associative consciente, et de la CIA, l'ère d'intégration commune. Mais c'est l'amygdale. C'est l'amygdale qui reçoit toutes les informations sensorielles et qui décide est-ce que c'est dangereux ou pas. Mais si l'amygdale a fusionné un événement avec une émotion, ce sera indiqué comme attention, cet événement égale cette émotion. C'est là que se trouve la fusion de nos souffrances, finalement.
Et c'est elle qui bloque alors le souvenir, par exemple, parce que tu vois la mémoire, quand...
Mais là, c'est non conscient.
Oui.
C'est non conscient. C'est pas nécessairement elle qui bloque le souvenir, mais c'est le lien entre elle et l'hippocampe. Il peut y avoir du stress et l'hippocampe dit non, ça, on ramène pas à la mémoire, surtout pas.
Ok.
parce qu'il y a tellement d'émotions associées, par exemple. Ils sont l'un à côté de l'autre, hippocampe et amygdale.
Et l'amygdale, c'est elle qui associe l'émotion à l'événement.
L'amygdale, c'est notre centre émotionnel, entre autres, de survie, hein, les émotions de survie. Mais, et ça c'est très important à savoir, c'est que chez l'être humain, survie de l'individu, survie de l'espèce et survie de l'ego, c'est la même chose. C'est la même chose. La survie de l'ego, c'est toujours la survie. Ça va, Tomoe? Ok. L'amygdale. L'amygdale va jouer un rôle dans la régulation des fonctions de base, comme l'hypothalamus, mais elle va mettre une connotation, une couleur émotionnelle aux choses. Ça va? Ça, c'est important. Je vais d'abord vous présenter ça, comme ça vous allez voir tout de suite au niveau fonctionnel l'amygdale. Celui-ci n'est pas mal. Est-ce que celui-ci est pas mal? Il est un peu trop compliqué. Où est-ce qu'il est? Sinon il est dans. Il est dans ce côté. Parce que ça c'est pas bon. Mais non, c'est mal. Voilà, ça c'est l'amygdale. Tu voulais voir une petite amygdale? Voilà une petite amygdale. Et pour vous donner une idée, vous voyez, on dit ça c'est l'amygdale, mais vous voyez le nombre de noyaux différents qu'il y a dans l'amygdale. On ne va pas rentrer en détail dans les noyaux. Et donc c'est un amas de cellules et puis un autre amas de cellules, et chacun a une fonction différente. C'est ça les noyaux dans le...
Pourquoi est-ce que ça porte le même nom que les amygdales?
Parce que ça a une forme d'amande, c'est tout. C'est la forme qui dit que c'est l'amygdale. Et comme ce n'est pas les mêmes gens qui vont voir dans le fond de la gorge et dans le cerveau, c'est vraiment pour ça, quoi. Et donc, si vous voulez, je vous donne ça en gros, pas besoin des détails, mais vous avez une information sonore qui arrive à l'amygdale, et l'amygdale va réagir, elle va envoyer des infos à l'hypothalamus pour dire... Voilà comment tu dois réagir au niveau physiologique, vers une autre zone qui va donner le comportement et vers le cortex cérébral pour enregistrer l'expérience. Donc vous voyez que l'amygdale envoie des infos un peu partout. Et maintenant, on va voir vraiment ce qui concerne ce cours-ci, et ça, c'est super intéressant. Ça, c'est vraiment le rôle qui peut savoir. Hein. Ici, c'est moi qui parle. Hein. Voilà. Ça, c'est vraiment... le rôle sentinelle de l'amygdale. Voilà comment les choses se passent. Ici, c'est au niveau visuel, et ce serait la même chose avec les autres sens, sauf l'odorat. L'odorat, on sait, pouf, ça va tout de suite vers l'hippocampe. Bien. Je vois quelque chose qui, dans ma vision périphérique, pourrait être un serpent. Dangereux, à ce moment. L'information visuelle va de toute façon vers le thalamus. Le thalamus, c'est le filtre à l'entrée de toutes les informations sensorielles, sauf l'odorat. Le thalamus, à partir du thalamus, j'ai deux voies. J'ai la voie lente et la voie rapide. La voie rapide, c'est pour la survie. Le thalamus envoie son image reçue par les yeux, mais une image à gros grains, pas très précise, vers l'amygdale. Donc l'amygdale reçoit du thalamus une information, regarde ce machin-là et compare avec ce que tu as dans ta banque de données pour voir si c'est dangereux. Ça va? Mais ça ne doit pas être super précis, je ne dois pas voir qu'il y a telle et telle couleur ou tout. Non, une image à gros grains suffit. Et l'amygdale évalue. Et s'il y a danger, l'amygdale envoie des informations vers l'hypothalamus. Et qu'est-ce qu'il va faire l'hypothalamus? Il va augmenter la fréquence cardiaque, la tension artérielle, il va favoriser la contraction pour m'enfuir ou pour figer sur place ou pour lutter, etc. Ça va? Non, mais ça je peux vous le faire.
Non, on l'a.
Vous l'avez?
on vient de voir tout à l'heure avec la voie rapide et la voie lente.
Je crois pas. Non. Maintenant, si c'est la voie rapide, mais dans la cuisine, si tu veux.
Non, là, j'ai pas pris carton.
Ah, d'accord. Si c'est la voie lente, eh bien, les deux se font en même temps. Et par exemple, si c'est visuel, du thalamus, ça va vers le cortex visuel. Et là, le cortex visuel va analyser l'image en clair. Et le cortex visuel va dire, mais non, c'est pas du tout un serpent, c'est un pied de vigne, par exemple. Et donc, le cortex visuel va lui dire à l'amygdale, calme ton jeu, la petite, c'est bon. Et l'amygdale va cesser de stimuler l'hypothalamus.
Ça va. Si le cortex confirme,
par contre, si le cortex confirme, c'est bien un serpent, mais l'amygdale a déjà réagi. Mais elle a déjà réagi.
En fait, la voie lente et rapide fonctionnent en même temps.
Les deux se font en même temps, mais la voie lente est beaucoup plus longue. Et quand on a pris conscience que c'était un serpent à sonnette, mais l'amygdale, elle a déjà réagi.
Mais c'est pas le schéma qu'on a là, en gros, là. Il
non, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est l'hippocampe.
Bah, oui, mais t'as l'amygdale, t'as l'amus.
Mais là, c'est ici, on a l'hippocampe. Là, c'est le lien, l'hippocampe qui clarifie l'image, qui, tu vois, qui l'image, le cortex visuel arrive là pour dire, pour vraiment l'examiner dans la mémoire, la comparer. Okay. Et puis, il y a un lien entre les deux.
Mais en fait, il faudrait juste compléter ce schéma-là, ça marche ensemble.
Mais tout marche ensemble. Mais alors, tu peux rajouter l'hypothalamus là-dessus, tu peux rajouter le septum là-dessus, tu peux.
Et
c'est pour ça que chaque fois, je fais un schéma séparé de différentes choses. Parce que ici, le schéma, ici, c'est le schéma centré sur l'amygdale. Là, c'était le schéma centré sur l'hippocampe. Comment les informations arrivent à l'hippocampe? Etc. Ça va? Parce que ici, le schéma va directement du thalamus à l'amygdale. C'est sur cette voie-là, la voie noire en fait. Tout à l'heure, la voie hippocampique directe, c'est celle-là. Après, c'est des rajouts. Et cette voie dont on parle ici, c'est celle-ci. Ça va?
Oui.
Donc c'est plus tout ça.
C'est plus tout ça.
Ok. Alors, vous voyez bien que l'amygdale va réagir avant que je prenne conscience de la chose. Parce que la prise de conscience visuelle, elle se fait là. Avant que je prenne conscience, l'amygdale a réagi. Et vous voyez ça très bien. Vous êtes en train de vous balader en rue. Et puis tout d'un coup, vous entendez un aboiement juste là à côté de vous. Vous avez réagi. Et puis tout d'un coup, ça arrive à la conscience. Vous voyez qu'il y a une clôture. Je me dis, oh, j'ai peur.
Oui.
C'est exactement ça. L'amygdale a réagi avant que vous ne preniez conscience qu'il y a un chien, il est dangereux ou il n'est pas dangereux. Il est protégé ou il n'est pas protégé. Ça va?
Le cœur bat déjà.
Le cœur bat déjà, l'hypothalamus, tout est. Tout est déjà en fonction. Ça, c'est la voie rapide, c'est la voie amygdalienne, c'est la voie de la survie, c'est la voie de la protection. D'accord? Que ce soit visuel, que ce soit auditif, le chien, le serpent, que ce soit le goût, avant même que j'ai pris conscience que ce que je mange est mauvais, je l'ai recraché. Ou que ce soit le toucher. Imaginez-vous, vous vous souvenez bien, quand vous êtes à un endroit, surtout si vous avez les yeux fermés, et vous avez un truc qui vous double. Et puis vous réagissez, vous regardez, vous dites, oh, c'est ça, par exemple. Mais il y a certains contacts, on se demande ce que c'est. Et c'est la survie, ça. Ça va? Ça se passe comme ça pour tous les sens.
Sauf l'odorat.
L'odorat, c'est hippocampe. Mémoire, danger, stop. Et l'hippocampe communique. Et l'odorat, on peut dire, c'est, ça vient par ici, quoi.
Pourtant, enfin, une odeur de feu, par exemple.
Mais une odeur, elle va aussi arriver à la conscience.
Oui.
Parce que regarde quand ça passe, puis par ici, ça arrive et ça remonte
oui,
à la
ça.
Conscience. Mais ça ne prend pas la même voie. l'odorat ne passe pas par le thalamus.
Mais
c'est
aussi
encore plus rapide. Parce que passer par le thalamus, tu vois, ici, ça passe par le thalamus et ça va vers le labique. Tandis que l'odorat, c'est pouf dans le labique. C'est encore plus rapide. On a juste vu ça, tu connaissais déjà. Donc voilà, ça c'est le rôle de l'amygdale. Et quelque part, l'amygdale, on a parlé du chien juste quand tu n'étais pas là.
C'est pas grave, j'enregistre.
Ah, ça va alors. Et donc vous voyez que l'amygdale commande l'hypothalamus qui est juste en dessous. Enfin, juste en dessous, en dedans. L'hypothalamus, je vous rappelle le petit schéma de tout à l'heure. Ici. Voilà. L'amygdale est là, l'hypothalamus est là, mais les voies sont rapides de l'un à l'autre. Ça va très vite. Et donc ça passe par l'information sensorielle arrive au thalamus, va vers l'amygdale, va vers là. Alors que elle peut aussi aller au thalamus et au cortex, et du cortex revenir à l'amygdale. Mais ça, c'est beaucoup plus long. Ça va ? Donc, ça, c'est cette coloration émotionnelle, réactionnelle, comment ils disent ? Il y avait un autre mot de... Oui, c'est coloration du contenu. Ça rajoute le contenu émotionnel au stimuli. Hier, je vous parlais, je vis un stress, pouf, mon cœur bat. Mais l'aspect émotionnel rajouté, ça, c'est l'amygdale. Bien. Je regarde juste si j'ai encore deux, trois petits trucs à vous dire là-dessus. Pour voir si quelque chose est dangereux dans l'environnement. Et c'est elle qui choisit, évidemment, les réactions de lutte et de fuite avant que ça devienne conscient. Il y a trois types de noyaux, vous l'avez vu. Ça j'ai dit. Et donc dans le système de mémoire, vous vous souvenez que l'hippocampe c'était la mémoire des faits sensoriels, des faits historiques, etc. Alors que l'amygdale c'est la mémoire des émotions plus. Là où l'hippocampe c'est une mémoire déclarative explicite. Par exemple, je peux parler des faits de ma vie, je peux parler de l'histoire de France. L'amygdale, c'est une mémoire implicite. Ce n'est pas du tout conscient. J'ai réagi avant même, ma mémoire a réagi avant même que je n'ai conscience que. Pourquoi je réagis quand je sursaute à l'aboiement d'un chien? Parce que c'est marqué dans mon amygdale, aboiement égale danger.
Pas des trucs programmés
qui viennent même de l'époque reptile. Pourquoi? Et on le voit par exemple, vous mettez un poil de chat dans une cage de souriceaux qui n'ont jamais été en contact avec des chats, les réactions sont terrifiantes. C'est programmé. Ça va? Alors les émotions dans l'amygdale la plus importante, la première de toutes nos émotions, c'est la peur. Et la peur, si je peux, pour survivre, je m'enfuis face à la menace. C'est la première réaction, la meilleure réaction, c'est la fuite. Sauf quand je ne peux pas fuir. Si je ne peux pas fuir, parce que j'ai été vue, par exemple, et que le bouffeur est juste sur moi, je dois me retourner et je dois me défendre ma vie. C'est la rage alors. La rage de survivre. Et la rage est fondamentale dans la hiérarchie sociale. Hein? Qu'est-ce qu'il fait?
Inconnu.
Vous voyez quelque chose, monsieur? La hiérarchie sociale. C'est la rage, c'est la lutte pour défendre quelque part sa position sociale de mâle dominant, etc., etc. Et vous voyez très bien que le mâle non dominant, pour montrer qu'il abandonne, c'est le ventre en l'air. Et ventre en l'air, ça marche dans la même race. Mais ventre en l'air, ça ne marche pas entre un lion et une gazelle. Là. Ça va ? Mais par contre, pour dire, ok, ça va, c'est toi le plus fort, le petit chien, le gros chien, c'est, le gros chien va se mettre comme ça face à Zach. Là.
Oui.
Voilà. Ventre en l'air, pour dire, ok, c'est toi le plus fort, ça va. Ça va, t'as gagné. Je ne veux pas perdre ma vie. Mais par contre, entre espèces, c'est à la limite celui qui perd sa vie. Inter-espèce. La rage de survivre. Et il y a une expérience assez bizarre. C'est Antonio Damasio qui raconte une femme a eu une calcification de l'amygdale. Donc son amygdale n'est plus fonctionnelle. Elle est détruite parce qu'elle est calcifiée. Cette femme n'avait plus aucune peur de rien du tout. Plus de peur. Elle ne ressent plus la peur, mais elle ne la reconnaît plus non plus. Si par exemple je suis dans un groupe et que vous êtes tous terrifiés par un lion qui arrive, moi là, je ne vais pas avoir la peur si j'ai cette classification. Alors que mon amygdale est au contraire liée au fait de pouvoir reconnaître aussi la peur sur le visage des autres, de pouvoir entendre la peur dans le cri des autres, de pouvoir sentir via l'hippocampe, de pouvoir arriver à sentir la peur dans l'odeur des autres. Vous savez que parfois, on pue, on sue de peur. Vous avez déjà senti ça dans l'odeur. On transpire, la transpiration sent la peur, la rage, la transpiration change d'odeur aussi. La peau change. On peut aussi reconnaître la couleur de la peau, le visage rouge de colère, le visage blanc de peur ou bleu de peur, etc. Tout ça, c'est reconnu par l'amygdale. L'amygdale doit tout reconnaître, tout ce qui peut l'aider à survivre. Ça va ? Et bien cette femme, elle n'était pas du tout agressive, mais elle ne reconnaissait la peur chez personne. On lui montrait des photos de peur, rien du tout. Elle ne pouvait plus avoir aucun contact avec la peur. Son amygdale était détruite. Pourtant, le côté concept, qu'est-ce que c'est la peur ? Expliquer ce que c'est la peur, ça elle connaissait. Mais le ressenti, la ressenti, plus rien.
Et la rage et tout, elle avait accès ? Enfin, je veux dire.
Oui, mais la peur, c'est la première émotion. C'est la toute première. La rage est consécutive. Et la rage peut s'exprimer ailleurs aussi que dans l'amygdale.
Oui, c'est ça. Et donc, dans l'amygdale, c'est principalement la peur.
Il y en a d'autres, la rage aussi. Mais la première, c'est la peur. La toute première.
D'accord.
Alors, l'amygdale, voilà, justement, l'amygdale, c'est la peur conditionnée. Elle est active que très tard en intra-utérin. Et en général, l'amygdale, c'est aussi, bon, on n'en parle pas du tout ici, mais c'est aussi l'hormone, la glande, enfin, le noyau des câlins. Et l'amygdale atteint sa maturité si l'enfant est choyé, est câliné, est pris dans les bras, reçoit beaucoup de câlins, etc. C'est pour ça qu'on dit que c'est la glande des câlins. Parce qu'alors, elle arrive à maturité vers l'âge de 1 ou 2 ans. Et on voit ça, un petit bébé. Mais vous pouvez passer de bras en bras. Il ne fait pas la différence, entre guillemets. Mais à 6 mois, on dit toujours il faut mettre un enfant en crèche avant 6 mois. Parce qu'après 6 mois, c'est beaucoup plus dur. Parce que là, son amygdale est plus mature, elle n'est pas encore tout à fait, mais plus. Et là, elle reconnaît bien que c'est plus maman qui est là. C'est un inconnu. Et un inconnu égale danger. C'est l'amygdale, ça.
Mais mettons que l'enfant n'ait pas été choyé, tout comme tu viens de dire, ça se développe quand même, cet amygdale ?
Mais moins bien. Moins bien.
Et donc, tu aurais des sortes de séquelles adultes de ce truc-là ?
Mais c'est-à-dire que dans tes réactions adultes, ce sera différent. Ce sera différent. Soit tu n'auras pas du tout peur, soit tu auras tout le temps peur, soit il n'y a pas que l'amygdale qui entre en jeu. Mais par exemple, un exemple que donnait Alfred, c'est que quand une amygdale n'est pas maturée, le contact avec les autres est indifférencié. Et donc, adulte, ça se manifeste comment ? Ben, je couche avec toi, puis je couche avec toi, puis je couche avec toi. J'ai pas cette capacité, puisque la maturation me permet de savoir, ça c'est ma maman, mais ça c'est une étrangère. Ok ? Mm-hmm. Je peux créer un lien, c'est le noyau des câlins. Mais si ce n'est pas maturé, je ne peux pas créer de lien. Et donc, n'importe qui dans mon lit, c'est bien de manger quelqu'un dans mon lit. Mm. Tu vois ? Il n'y a pas ce lien privilégié qui peut se par exemple. Donc, ce n'est pas que l'apport à l'amygdale.
Non, c'est
beaucoup d'autres choses aussi.
Et ça, de nouveau, on peut aider les gens à ce niveau-là où c'est un truc irréversible.
On peut aider.
Bien sûr.
L'autre chose, c'est que vous avez vu la voie qui va vers l'amygdale et la voie qui va vers le cortex et puis vers l'amygdale. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'amygdale est active, elle prime. Et donc l'amygdale va court-circuiter le cortex. Les voies allant de l'amygdale vers le cortex pour stopper le cortex sont beaucoup plus fortes que les voies du cortex vers l'amygdale. Si je suis en état de survie, avec un lion qui court derrière moi, je ne vais pas m'arrêter en posant des questions, est-ce que je vais à droite ou à gauche, cortex. Non, il ne faut surtout pas que ça se passe. L'amygdale prend le relais et me fait courir dans l'endroit où elle sent que c'est juste. Et là, elle se base sur le ressenti et plus du tout là. Et c'est la survie qui entre en jeu. Le cortex, il est court-circuité. Alors, Descartes disait, je pense donc je suis. Damasio a écrit un livre, Damasio c'est un grand neurologue, écrit un livre, la logique est affective, l'erreur de Descartes s'appelle son livre. Parce que c'est pas juste. Si je fais un choix, je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais un choix basé sur mon ressenti, beaucoup plus que sur mon intellect. Et les gens qui sont switch, par exemple, switch haut-bas, et qui ne sont pas capables d'utiliser les deux, vont soit être purement dans l'intellect et être incapables de pouvoir contacter ce ressenti et se faire des bons choix, soit purement dans le ressenti et vont paniquer parce qu'ils n'ont pas leur tête et vont croire que ça ne va pas marcher. Donc. Okay. Ça va ? On est presque au bout. Hein. Le doux dit on ne peut jamais éteindre ce qui est programmé dans la mitale. Et ça, c'est clair que Ledoux, un autre neurologue français, et c'est lui qui a dessiné le dessin que je vous ai montré tout à l'heure, c'est de lui que ça vient. Ok, je vais juste vous lire une histoire sur l'amygdale. C'est monsieur Charles Whitman, on est en 1966. Je vous résume. Hein. C'est un boy scout. Un modèle d'homme, un super mec, super gentil, le mari parfait. Eh bien, un jour, il monte sur une tour de l'Université de Texas et il commence à tirer sur tout qui passe. Plus tôt ce jour-là, il a assassiné sa femme, qui, après sa mort, dont il disait après sa mort, c'était mon cher amour. Bien. Pendant plusieurs semaines, il a été troublé par de violents maux de tête et des pensées de violence. Il était en train de penser à tuer les gens, à faire mal aux gens. Il avait vraiment des pulsions de violence. Comme c'était complètement contraire à sa nature, il a commencé à s'en faire et il a pris un rendez-vous chez le psychiatre. Malheureusement, après 2 heures de séance, le psychiatre lui a dit « Écoute, désolé, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux pas vous soulager, je ne sais pas ce que vous avez. » Mais il se sentait de plus en plus effrayé par ce qu'il y avait dans sa tête. Et il avait peur de ses impulsions violentes. Alors il a été à la police. Mais parce qu'il n'y avait aucune charge contre lui, la police a dit « Désolé, on ne peut pas vous enfermer, rentrez à la maison. » Et les impulsions ont commencé à croître en intensité. Finalement, il s'est assis et il a écrit une lettre. Il dit, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe avec moi durant ces jours. Jusqu'à présent, récemment, j'étais victime de pensées tout à fait inhabituelles et irrationnelles. Ces pensées reviennent constamment. Et il me faut un effort mental énorme pour me concentrer. J'ai parlé une fois à un médecin, au bout de 2 heures, il m'a dit que mes peurs, je devais les dépasser, et voilà. Après une séance, je n'ai plus été revoir ce médecin. Et, mais malgré tout, j'étais toujours face à ce tourment mental, tout seul. Alors j'aimerais qu'après ma mort, vous fassiez une autopsie pour voir s'il y a des désordres physiques qui expliqueraient ça. J'ai aussi de terribles maux de tête. Plus tard, il a écrit. Après de nombreuses réflexions, j'ai décidé de tuer ma femme, Cathy, ce soir, après avoir été la chercher au travail. Je l'adore. Elle a été une merveilleuse femme pour moi. Aucun homme n'aurait jamais pu rêver d'une femme pareille. Et je ne peux trouver aucune raison rationnelle pour laquelle je vais la tuer. Et ce soir-là, il a tué sa femme et la mère de sa mère ou la mère de sa femme, et il a écrit. J'imagine qu'il me semble que j'ai brutalement tué deux personnes que j'adore. J'ai simplement essayé de faire un bon job. Ok. Le lendemain matin, donc, il est monté à l'université, il a tué tout le monde, etc. Rien dans son histoire ne pouvait expliquer ce comportement. Donc, on a fait... il a tué 14 personnes et finalement, on a réussi à l'arrêter en tuant lui. Et on a retrouvé la lettre. Et donc, on a fait une autopsie. Ils ont trouvé une tumeur géante de la taille d'une noix qui comprimait une partie de l'amygdale dans le système limbique. Et c'est ça qui a déclenché ces envies de meurtre et de violence. L'amygdale, c'est la partie du système limbique impliquée dans la capacité de vivre ses émotions et ses humeurs, y compris la capacité de discerner la signification émotionnelle et motivatrice des événements sensoriels.
C'est une histoire vraie ?
Oui, c'est en 66. Il s'appelle, Charles Whitman. Par exemple, c'est l'amygdale qui nous rend capable de détecter si quelqu'un se comporte de manière en colérique ou aimante, de déterminer si quelque chose peut être bon à manger ou de ressentir la peur, etc., etc. Et malheureusement, chez Charles Whitman, son amygdale était infiltrée par une tumeur, donc a pris trop d'ampleur et a coloré tout son monde de rage et de violence. Voilà. Un exemple de tumeur de l'amygdale. C'est fou, hein? Juste un petit truc.
Des cancers de cerveau,
des choses comme ça. Ah, mais oui, bien sûr. N'importe quelle zone du cerveau, bon, il y a des zones, on verra demain, il y a des zones qui sont liées aux comportements sociaux, etc. Mais ces zones, soit elles sont détruites et le comportement disparaît, soit elles sont en excès parce qu'il y a une tumeur et le comportement est excessif. Et si c'est une zone de contrôle, par exemple, de la rage, ça peut déclencher de la rage ou ça peut supprimer la possibilité de la rage, par exemple. C'est fou, hein?
Et tu disais que la zone de l'épilepsie, c'était où tout à l'heure?
Surtout dans le lobe temporal antérieur et interne.
Donc, pas loin?
Pas loin. Mais plus au niveau de l'hippocampe, plus en arrière. Bien, alors si vous regardez maintenant l'amygdale, comme je vous l'ai dit, pour l'amygdale, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on l'appelle le noyau des câlins. Je vous l'ai dit. L'amygdale, ben, on va rentrer limbique, on va rentrer 14GC à un cune de l'appendice typhoïde, un cune en dessous, point d'alarme du cœur. On rentre physiologie et on a 24 points de physiologie amygdalienne et vous les avez à la page 29. Le 1VC, c'est la tension artérielle qui augmente. 29. Le 2VC, fréquence cardiaque. Le 3VC, c'est la motilité et la sécrétion gastro-intestinale. C'est motilité, le mouvement. C'est vraiment pouvoir vider son rectum. Le 4VC, défécation mission, se débarrasser de ce qui est dans le rectum, dans la vessie, pisser, chier dans son pantalon. Ça va? L'idée, c'est, rappelez-vous, hier, on a vu l'hypothalamus, ça, ce sont les réactions physiologiques. Ici, ce sont les réactions. La coloration plus émotionnelle, ce sont mes émotions qui me font pisser dans mon pantalon, etc., etc. Ça va? 5VC, c'est la dilatation pupillaire dans l'obscurité ou la constriction pupillaire dans la lumière, mais qui est aussi liée aux émotions. Vous savez bien que si vous avez peur, ben, ça va accentuer. Si vous avez la rage, vous pouvez avoir des toutes petites... Vous voyez dans les yeux de la personne si elle est en colère ou si elle a peur. Et d'ailleurs, au niveau des sentiments, on joue bien avec ça. Le dîner aux chandelles, c'est quoi? Je mets moins de lumière pour avoir une dilatation pupillaire. Et la dilatation pupillaire dans ces situations-là, parce qu'il n'y a pas des crispations de terreur sur mon visage, c'est autre chose que la peur que j'envoie comme message, mais avec mes pupilles dilatées. Tout ça, c'est... Je discutais à... Bon, il y en a qui connaissent France ici, je discutais avec elle tout à l'heure, et elle me parlait de ce film, à midi, elle me parlait de ce film Les animaux amoureux, et qu'elle avait entendu plein de trucs, qu'on disait ce matin à la radio à propos de ce film, et que les animaux c'était comme les hommes et tout. Je dis, ben oui, et si tu suivais le cours aujourd'hui avec moi, tu verrais que la sexualité, ça n'a plus rien à voir avec les sentiments et l'amour, mais c'est purement de la biologie, la biochimie. Et c'est vraiment ça. Si on regarde, Alfred, il me dit toujours, les rencontres entre les hommes et les femmes, c'est purement de la biochimie. Hein. On croit que c'est nos sentiments qui nous attirent l'un vers l'autre, etc. Pas du tout, du tout, du tout. On est poussé l'un vers l'autre de manière totalement inconsciente. Par les odeurs, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Mais par exemple... La manière dont des couples sont attirés l'un vers l'autre dépend, entre autres, de ce qu'on appelle les phéromones, et ça, c'est lié à l'odorat. Et les phéromones sont modifiés quand on prend la pilule. Et c'est parfois pour ça que certains hommes sont attirés par certaines femmes, elles arrêtent la pilule, elles ont leur gosse, il n'y a plus aucun lien entre les deux partenaires. Et on ne sait pas pourquoi. Ça se passe à un niveau limbique, tout à fait inconscient. C'est un exemple, mais c'est pour vous dire, tout se passe là, et nous on pense que ça se passe là. Le 6VC, c'est cette réaction, j'ai marqué piloérection, c'est vraiment la chair de poule, parfois on parle de l'horripilation, vous savez où tous les poils se dressent, et... les poils se dressent en général quand j'anticipe, je sens quelque chose d'inconnu qui pourrait être dangereux. Certaines personnes le ressentent ici à l'arrière, dans le cou. Hein? Là. On sent les poils qui se dressent là. C'est les chines des chats ou des chiens, vous le voyez. C'est la même chose. Le 7VC, sécrétion de diverses hormones de l'hypophyse antérieure. Donc, c'est l'amygdale qui a un... Je répète ça. Sur la gonadotrophine et la CTH, qui sont les hormones de stress et liées à la sexualité. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Ça veut dire que c'est l'influence de l'amygdale sur le comportement sexuel. Quand je le disais. Donc l'influence de l'amygdale sur le comportement sexuel, et ça passe par l'hypothalamus. Le 8VC, mouvement tonique involontaire, comme par exemple des convulsions, mais c'est aussi, vous allez voir qu'il y a beaucoup de sexe là-dedans, dans l'amygdale, c'est aussi des mouvements toniques involontaires orgasmiques. Pas nécessairement, non. Le 9VC, mouvement circulaire involontaire. Le 10VC, mouvement rythmique, clonique, involontaire.
Clonique.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est,
C'est le cornus. Hein, tu sais ce que ça veut dire? Le cornus, c'est, il y a, ben oui, justement, c'est quand, je pense que ça se trouve là dans le cerveau, quelque chose qui ne... Par exemple, si je fais ce mouvement-là de taper sur la table, il y a un feedback qui doit se faire, et normalement, je tape et je m'arrête. Et les gens qui ont le cornus, ils tapent.
Ah, oui, c'est ça.
Ou ils marchent, et ils marchent comme ça, en fait. Parce que il y a plus ce ressenti de l'amortissement du mouvement. Et donc, ils sont tout le temps en train de tressauter comme ça. Mm-hmm. Et ça, c'est plus. Merci.
Le 11, laisser ces mouvements avec l'olfaction et le fait de manger. C'est tout. On revient aux animaux, hein, parce que c'est ça là, c'est. C'est je sniffe, je sens, je salive. Et avec le sens, est-ce que c'est quelque chose qui me semble familier, qui m'attire, ou au contraire qui me repousse? Vous voyez ça très fort chez les chiens, chez qui. Et par exemple, dans le temps, on en parle moins aujourd'hui, avec l'instinctothérapie, vous connaissez ça? Mon beau-frère avait fait ça. Et donc, il arrivait toujours avec des kilos de viande, comme ça, crue, qu'il mettait dans le frigo, et des poissons, et des trucs. Et alors, il sortait tout, la table était remplie, une table deux fois comme ça, et puis il prenait un morceau de steak, et non pas aujourd'hui, il prenait du poisson cru. Là, oui, voilà, c'est ce noyau-là. Mais on retrouve ça chez les animaux. Cet instinct qui fait que je sens que quelque chose est familier et que je peux y aller sans danger, ou que c'est nouveau et je suis plus sur mes gardes, par exemple. Mais ça passe par le sniff. Alors, ça peut aussi être, pour nous les hommes, la nourriture plus intellectuelle. Hein, je sens, c'est par exemple, vous êtes certains disent ça, hein, je rentre dans une librairie ésotérique et faut que je trouve le bouquin dont j'ai besoin. Ça pourrait être ce noyau-là aussi, quelque part. Hein. C'est une confiance à mon instinct. Hein. On sait bien que le nez, nous on ne fait pas ça, mais quelque part, j'ai senti que c'était là que je devais aller. Ben, c'est le nez. Non conscient, complètement conscient. On saute du 12 au 16, on ne rien tout à l'heure. Le 17, c'est l'érection. Alors, c'est pas seulement l'érection chez l'homme, mais c'est aussi l'érection chez la femme, avec le clitoris. Le 18, les mouvements copulatoires. Donc, quand on fait l'amour entre les hommes et les femmes. Le 19, c'est l'éjaculation. Chez les hommes et chez certaines femmes qui éjaculent aussi. Et c'est lié à la constriction des muscles du vagin et de l'utérus chez la femme. Le 20 WC, c'est l'ovulation. Chez l'homme, ça pourrait aussi être la spermatogenèse, donc la fabrication des spermatozoïdes. Le 21 et le 22 WC, les deux sont liés à l'ocytocine. Dans le 21 WC, c'est l'action utérine, et certains disent aussi prostatique, mais tout le monde n'est pas d'accord. Mais c'est aussi lié directement à l'ocytocine, à cette hormone câlin. Et le 22, c'est plus le travail et l'allaitement. Mais 21 et 22 peuvent sortir en dehors, dans le plaisir, dans l'orgasme, comme je vous l'ai dit hier. Les deux sont liés à l'ocytocine. Le 23, c'est la curiosité, mais c'est, je voudrais dire, c'est lié à l'odorat. C'est quelque part les gens qui mettent leur nez partout. Hein, ça pourrait être ça. Ou les gens qui sont trop familiers. Ou pas assez familiers. Donc c'est dans ce sens-là, mais c'est aussi la curiosité d'explorer le monde, de trouver des nouvelles possibilités. Hein. Le 24. Bon, je vais vous expliquer parce que ça dit pas vraiment, c'est une évaluation globale, une sensation de toute l'atmosphère en une fois, de toute la situation. J'évalue globalement tout. C'est ça. État présent d'environnement et de réflexion. C'est ce côté-là. Globalement, est-ce que ça me paraît sûr, je vais en avoir du plaisir, ou ça me paraît dangereux et je dois faire attention. Ça va, c'est ça. Ce point-là. Recherche de récompense ou de punition, mais dans l'évaluation globale de la situation. Ça va? Alors, les points 12 à 16, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont ces points émotion. Le 12, c'est la rage. Dans le sens de la rage de survivre, mais c'est aussi la lutte, puisque la rage, c'est la lutte. Hein. Le 13, c'est l'échappatoire. Parfois, on dit aussi que c'est la fuite ou la soumission. Le 14, c'est la punition, la douleur. Le 15, la peur, la peur, le danger, la menace. Et parfois, quand j'ai peur, je dois me figer sur place, donc ça peut être ce point-là. Et le 16, c'est plaisir, récompense. Trop ou trop peu. Voilà. Alors, j'ai terminé, je ne vais pas plus loin dans la théorie de la médaille, je crois que vous avez bien assez d'infos. Toi, tu étais en cours l'année passée. Je me souviens si c'était 24 ou 23. Et toi?
Le cours de
l'année. Oh, c'est le 23. Ah, oui, le 20-23 ou le 20-24? J'ai un trou.
L'année passée, je ne peux pas. Je crois.
T'as pas vu ça, quoi?
Non.
Ben,
j'ai pas fini pour.
Non, mais t'as fait AP.
T'as
fait AP l'année passée. Je me souviens quand on venait les points, si c'était le 23 ou le 24. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire vos pré-tests. Vous allez rentrer le TAM en circuit. Éventuellement, vous allez rentrer des pré-activités.
Cette procédure, c'est juste pour l'amygdale?
Non, c'est pour tout.
Ah, oui.
Je vais faire des pré-activités avant, après, etc. Puis, je vais rentrer, vous l'avez vu, hein, c'est toute la construction de mon setup. Je demande à la personne les sensations. Parfois, je demande à la personne qu'est-ce qu'elle se dit, l'autodialogue, ou quelle émotion monte, etc. Donc, tout le ressenti de la personne. Tout ça, vous rentrez en circuit. Ensuite, donc ça, c'est quelque part le setup du TAM. Donc, 1, 2. En 3, vous voulez maintenant ce timbre que vous allez rentrer en circuit, vous voulez aller voir dans le cerveau. Alors, on doit trouver par où entrer dans le cerveau. Et donc, je vais chercher le meilleur point d'entrée. Alors, jusqu'à présent, je vous mets la complète. Demain, on complétera. Mais ça peut être, je rentre par le cortex, hein. Ça peut être, je rentre par limbique. Et puis quoi dans limbique? Si c'est la mémoire, je peux me dire, je rentre par l'hippocampe, hein. Par exemple, Si c'est un problème physiologique, je rentre par. Tiens, je dois vous parler d'un truc, je vais mettre ça ici. Je rentre par, par l'hypothalamus, etc. Ça va ? Et puis demain, on va aussi voir trois, les glandes cérébrales. Et donc, en fonction, ça, on n'a pas encore vu, en fonction du timbre de la personne, je peux raisonner et me dire le mouvement, les ganglions de la base. Ça va ? Et aller voir. Maintenant, quand je ne sais pas, si aucune idée, mais aucune d'aucune, hein.
Mais là, tu as quand même une réponse du corps. Ou bien c'est dans ta tête.
Mais je cherche dans ma tête et je vais voir.
Oui.
Je dois rentrer, je dois trouver un endroit où il y a du stress. Ça va ? Et la personne vient avec un problème de mémoire, je vais par exemple voir l'hippocampe. Et je trouve du stress, chouette. J'ai trouvé un point de départ. Une fois que j'ai mon point de départ, je vais pouvoir aller chercher derrière.
Mais à ce niveau-là, tu ne fais pas de rentrer tous les points, tu demandes au corps, cortex, limbique.
Non, je fais cortex, comme ça par exemple,
oui.
Et je vais voir. Si je trouve quelque chose qui est prioritaire, je me dis chouette, je peux partir de là.
Okay.
Si je ne trouve pas, je rentre limbique, puis je dis par exemple 17. Je vais voir le 17, changement prioritaire, chouette, j'ai trouvé mon fil d'entrée. Ça va ? Une fois que j'ai trouvé un fil d'entrée, tout va bien. Je vais pouvoir partir. Mais je dois trouver un fil d'entrée. Si je n'ai aucune idée, il y en a un que j'ai choisi. C'est l'amygdale. Ça va ? Pourquoi ? Mais c'est l'amygdale dans la physiologie 12 à 16 BC. Dans ses émotions. Parce que ça, quoi que je vive, j'aurai des émotions. Ça va ? Et donc, je peux rentrer par l'amygdale. Et puis, je rentre le point. OK ?
Et tu rentres dans l'amygdale et tu vas voir...
Physio, oui, ces points-là. Uniquement ces points-là. Si je choisis de rentrer par l'amygdale, parce que je n'ai pas d'autre possibilité, j'ai là. Uniquement cette physio-là. Ensuite, une fois que je suis dans le cerveau, il suffit de demander au corps... Est-ce qu'il y a un autre endroit derrière ? Et comment on fait pour demander un autre endroit derrière ? On fait le mode référence croisé. 4 modes référence croisé.
C'est celui qu'on appelle aussi élargissement de
circuit.
C'est comme ça, élargissement de circuit. C'est le circuit réactif,
ça s'appelle.
Non, je ne me rappelle plus.
Comme ça.
En généalogie.
On ne touche pas, sans contact, comme ça.
Ah, on ne touche pas,
non.
Donc ça, c'est référence croisée.
Référence croisée.
Et si on touche alors, c'est quoi ?
C'est rien, mais dans le mode, on ne touche pas.
C'est une faute.
C'est
une faute.
Une fois que je suis arrivée dans l'amygdale, une fois que je suis partie, que mon mode référence croisée me donne un changement d'indicateur, qu'est-ce que je fais ? Je reviens au point 3. Parce que là, je suis dans le cerveau et je dis, est-ce que c'est cortex ? Est-ce que c'est limbique ? Est-ce que c'est glande ? Et puis, je trouverai une structure. Et dans cette structure, une fois que j'y suis, je rentre ce que j'ai trouvé. Point physiologie, j'ai plus rien. Je reviens. Je dis, OK, mode référence croisée, il y a encore quelque chose derrière ? Est-ce que c'est cortex ? Je vais vous le mettre ici plutôt. Ça, c'est plus facile. Changement d'indicateur, je vais voir cortex, limbique, et quoi ? Une glande. Et puis quand j'ai rentré tout, physiologie et tout, je reviens ici, mode référence croisée. Et je tourne là-dedans jusqu'au moment où j'ai plus rien.
Je peux
parler
de ça ? Oui. Au numéro 3, donc si on n'a aucune idée qu'on va à l'amygdale, est-ce qu'il y a une raison, enfin, quelle est la raison pour laquelle on ne va que dans les émotions ?
Parce qu'on part d'une émotion, on cherche de partir d'une émotion de base, d'une émotion primaire, c'est tout. Parce que ça, c'est là partout. Les autres points ne sont pas là partout. Tandis que les émotions primaires, on en aura toujours une.
Oui.
C'est tout. Une fois que j'ai plus rien, quand il n'y a plus rien, plus de références croisées, 5, et ça c'est important, je revérifie l'amygdale de 12 à 16 VCE parce que maintenant que j'ai tout rentré, je vois si je n'ai pas encore une émotion primaire. Et ça, si c'est un truc à retenir, que de ce cours, vous ne faites que ça. Que ça, c'est avant correction, je vais voir l'amygdale 12 à 16 VC. Et là, vos séances vont augmenter de puissance.
Dans toutes les séances.
Dans n'importe quelle séance, avant correction, dans le temps présent, en récession.
C'est fou parce que c'est exactement ce que je me suis dit après lui. Genre, je m'en dis. C'est trop embrouillé, mais ça, je comprends.
Bien. Si amygdale sort, si ça sort, à ce moment-là, je retourne au 4. Parce que si amygdale sort, ben je suis de nouveau à un point de départ où je peux trouver d'autres choses derrière. Ça va? Si amygdale ne sort pas, ou quand plus rien ne sort, 6, corrigé.
Excuse-moi, tu peux, encore une petite question par rapport aux autres points de l'amygdale. Donc, on va dans l'amygdale, on n'a pas d'idée, on va dans l'amygdale, on fait les points et d'émotion 12 à 16. S'il y avait d'autres points dans l'amygdale, ils sortiraient en référence croisée.
Par exemple.
Quelle serait leur chance de sortir en fait,
par exemple, oui. Je vais laver les mains. Si j'ai dû rentrer l'amygdale, après je retourne de nouveau à tourner. Jusqu'au moment où plus rien ne sort ici, plus rien ne sort à l'amygdale, alors je corrige.
Dominique, quand tu dis qu'on peut, enfin, que c'est mieux de vérifier cette amygdale avant chaque correction de n'importe quelle séance, tu mets des tranches de main, tu vas chercher tes modes physiologiques, d'où c'est. Si tu trouves un des quatre.
Un des cinq.
Tu vas juste chercher, demander à la personne.
Non, je peux lui dire, mais ce sont des émotions complètement inconscientes.
Et qu'est-ce que tu fais? Tu rentres juste le point?
Et je le fais pulser, c'est ce que je vous ai montré ce matin et c'est ce que je vais vous remontrer maintenant.
D'accord. Merci.
Est-ce que quelqu'un a envie de venir sur la table pour n'importe quoi? Tintin,
le fait de rougir.
De rougir? Ok, bien.
Toujours plus compliqué, c'était quoi encore?
Référence croisée.